Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Calade. Au sommaire de notre édition, activation du plan froid, hébergement d'urgence, souvent saturé, les actes de solidarité se multiplient. C'était le cas l'hiver passé avec une famille demandeur d'asile sur la localité. Nous avions alors interpellé Laurence David, la directrice du foyer d'hébergement de demandeurs d'asile à Doma Villefranche. Puis, journée nationale de la santé à domicile. Le 28 novembre, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques ou encore du vieillissement de la population est un enjeu majeur des politiques en matière de maintien à domicile. L'occasion d'un entretien avec des professionnels concernés. Et en conclusion, Chanson douce, film de Lucie Borloteau, en sortie nationale, actuellement programmée au cinéma Les 400 coups à Villefranche. La réalisatrice était l'invitée des rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 2019. Calade, le journal. Un collectif de paysans, dont José Beauvais, réfute dans une tribune au Monde le terme d'agribashing dont usent les défenseurs de l'agro-industrie et critiquent un modèle qui entraîne les agriculteurs et la société dans le mur. Nous, agriculteurs, agricultrices, observons une atmosphère de crispation, d'incompréhension entre une partie du monde agricole et le reste de la société, principalement focalisée sur l'utilisation des pesticides et sur l'élevage industriel. Concernant les pesticides, leurs effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement sont prouvés par de nombreuses publications scientifiques, tandis que le rejet de l'élevage industriel correspond à la dénonciation d'un système de maltraitance animale à grande échelle qui ne permet pas aux éleveurs et salariés concernés de s'épanouir ni de s'en sortir économiquement. Ces pratiques portent atteinte à l'environnement ici et ailleurs, comme le montre le problème des algues vertes en Bretagne. La dégradation de nos ressources en eau ou encore la déforestation générée par la monoculture de soja OGM au Brésil. Les critiques de ces pratiques légitimes sont qualifiées d'agribashing par la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles. Formule reprise par le ministre de l'Agriculture et le président de la République. Pourtant, la remise en cause du modèle agro-industriel dominant n'est pas de l'agribashing. Il ne s'agit pas de dire que l'agriculture est mauvaise, maléfique ou que les urbains n'aiment pas les agriculteurs. Il s'agit de critiquer un modèle qui entraîne les agriculteurs et notre société dans le mur. Ce modèle endette dangereusement les agriculteurs, continue de vider les campagnes de leurs paysans, pousse à un gigantisme, empêchant les jeunes de reprendre les fermes des retraités, pollue les sols et les eaux, détruit la biodiversité, dégrade la santé des écosystèmes et des humains. Cette agriculture basée sur l'agrochimie, la spécialisation à outrance des territoires et la mondialisation contribue au réchauffement climatique et est peu résiliente face aux événements extrêmes qui se multiplient. L'agroécologie paysanne que nous pratiquons le plus souvent en bio depuis de nombreuses années représente une alternative crédible. Cette agriculture qui lie agronomie et écologie nous permet de vivre avec dignité et de transmettre nos fermes. Activation du plan froid, hébergement d'urgence souvent saturé, les actes de solidarité se multiplient. C'était le cas l'hiver passé avec une famille demandeur d'asile sur la localité. Nous avions alors interpellé Laurence David, la directrice du foyer d'hébergement de demandeurs d'asile à Doma, Villefranche.
Un des premiers critères d'entrée sur un dispositif national d'accueil, c'est la vulnérabilité. Donc c'est majoritairement des familles, des femmes enceintes, des enfants en bas âge. Des personnes déclarées très vulnérables, connues par l'OFI et par la préfecture et par le médecin de l'OFI aussi comme des personnes vulnérables. Voilà, il y a un accompagnement sur toute la durée du séjour, aussi bien en termes d'ouverture de droits pour la santé, pour l'éducation des enfants, pour la scolarité, pour la procédure administrative aussi, la procédure de reconnaissance. Donc on les accompagne sur tout le temps du séjour et notre accompagnement s'arrête au moment où ils obtiennent une réponse définitive à leur demande de protection, c'est-à-dire à la réponse positive OFPRA ou à la réponse positive ou négative devant la Cour nationale de demande d'asile. Tous les foyers d'urgence passent par le même entonnoir, je dirais. L'orientation, elle se fait par le 115, c'est lui qui détermine les priorités et qui oriente sur tous les foyers d'urgence de la région. Donc il n'y a aucun foyer d'urgence qui fait des entrées directes sans passer par une priorisation du 115.
Et comment peut-on arriver à essayer de se réinsérer effectivement ?
Les perspectives, c'est de montrer aussi sa volonté d'intégration. C'est des enfants qui vont à l'école, qui sont brillants dans les études. C'est des parents qui maîtrisent bien le français pour les deux. Et puis c'est faire tout ce qu'il faut pour montrer son intégration, mais ça ne donne pas de droits particuliers, quoi. Ça, c'est des fois pas suffisant, malheureusement. On a des personnes qui sont très impliquées dans la vie citoyenne, très dans la vie associative, qui font preuve de beaucoup de volonté de s'intégrer. Mais voilà, il n'y a pas de possibilité de régularisation. Sinon, enfin, on en est resté à la circulaire Valls qui proposait que les gens qui étaient depuis plus de 5 ans sur le territoire avec des enfants scolarisés pouvaient prétendre à une régularisation. Mais ce n'est pas automatique, quoi. C'est à la discrétion du préfet de toute façon.
C'était la directrice Laurence David du foyer d'hébergement de demandeurs d'asile. Journée nationale de la santé à domicile le 28 novembre. L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques ou encore du vieillissement de la population est un enjeu majeur des politiques en matière de maintien à domicile des personnes. L'occasion d'entretien avec des professionnels concernés.
Sarah Morera-Mondès, psychomotricienne, coordinatrice à l'équipe spécialisée Alzheimer à domicile de Villefranche. Alors oui, nous on intervient effectivement localement puisqu'on a le canton de Villefranche, canton de Glézé, on a quelques communes du canton de Belleville et le canton de Toissé également. Et en termes de pourcentage, on est à 30 patients par semaine. On est vraiment équipe spécialisée Alzheimer à domicile, donc on est vraiment sur la mission de maintien et sur des missions assez élargies en termes de quotidien, de motricité, de maintien des capacités au niveau de la mémoire et puis d'ouverture aussi sur l'extérieur, notamment en mettant en place des relais. Ça fait partie de nos missions au cours de notre prise en charge.
Jean-François Bonin, je suis un bénévole attaché à l'association France Alzheimer Rhône, antenne de Villefranche, Beaujolais-Val-de-Saône plus particulièrement, et je suis également un des vice-présidents de l'association basée à Lyon. Alors, nous sommes une association de bénévoles car la plupart des bénévoles qui agissent dans France Alzheimer ont eu le problème familialement auprès d'un ami, etc. Quelqu'un atteint d'une mama, selon notre jargon, maladie Alzheimer et maladie apparentée ou associée. Nous nous occupons des familles, car lorsque le cas s'est produit dans les familles, c'est le désarroi, et on cherche un numéro de téléphone pour parler avec quelqu'un. C'est aussi pour dire aux personnes qui n'osent pas contacter l'association, mais aussi les services concernés, de le faire, de ne pas hésiter à le faire. Il est dangereux de rester seul dans ces problématiques familiales extrêmement douloureuses et complexes.
Journée nationale de la santé à domicile, le 28 novembre. Et pour conclure cette édition, Chanson douce, le second film de Lucie Borlotto en sortie nationale, actuellement programmé au cinéma Les 400 coups à Villefranche. L'adaptation à l'écran du livre éponyme de Leïla Slimani laisse toute sa place à cette chronique sociale. La composition Ombre et lumière de la comédienne Karine Viard, Louise, personnage central de l'intrigue, donne toute sa force à ce thriller psychologique. Entretien avec Lucie Borlotto, elle était l'invitée des rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 2019.
Myriam, vous pouvez partir tranquille.
Bisous mes chéris.
À votre formidable famille.
Elle est super votre mimi.
On voit qu'elle aime vos enfants.
Évidemment. Et après, c'est vrai que par rapport à la question notamment de la place de Myriam en tant que jeune femme, aujourd'hui, on nous demande en fait d'être partout, d'être sur tous les fronts, d'être parfaitement mère, parfaitement amante, voilà, dans le couple et tout ça. Et évidemment, de mener sa carrière.
Rester amoureuse.
En même temps que la maison soit bien tenue, quand même, c'est mieux, etc., etc. D'être jolie, enfin, de prendre soin de soi. Et en fait, c'est une grosse charge, quoi. Et c'est un peu intenable. Et c'est vrai qu'après, au début, c'est très, très concret. Ils cherchent un mode de garde. Je pense que beaucoup de jeunes parents pourront s'identifier, puisque la question de se dire, est-ce que j'ai envie de mettre tout le salaire que je vais rapporter à la maison en reprenant mon travail dans le salaire de la nounou, c'est toujours une chose un peu bizarre, mais c'est quand même la question que se pose la plupart des gens, sauf les gens qui ont vraiment les moyens.
Alors je rebondis effectivement sur ce qu'on vient de dire, avec l'histoire de la blouse, de la fameuse nounou providentielle, cette blouse, je sais pas, qui est un élément de décor important, moi je pense.
Le costume.
Costume de la nounou.
Oui, tout
donc
à fait.
On se
au
relâche.
Début, on peut croire aussi qu'elle va apporter un peu d'ordre dans cette famille, qu'il y a du positif, quoi, même si assez vite ça se délite. On se dit, oui, ils ont choisi la bonne personne. Et puis c'est vrai que sur le travail de costume, par exemple, avec la costumière Dorothée Guiraud, puis avec Karine Viard, on avait fait un premier essayage où moi je trouvais ça plutôt pas mal, etc. Et puis Karine ne le sentait pas du tout en fait, elle trouvait que ça faisait un truc déguisé. Donc on a fait une longue séance de travail. mais elle a une silhouette qui renvoie, pour moi, ce que je trouvais bien, qui renvoie un peu à la silhouette de ces métiers du care, qui sont toujours envoyés systématiquement quelque chose de féminin. C'est-à-dire qu'on pense toujours que les femmes, elles vont y trouver du plaisir, en fait, à s'occuper des autres, voilà, à s'occuper des personnes âgées, des enfants, être infirmière. Et j'aimais bien que les robes qu'elle porte, qui sont un petit peu désuètes, ainsi que cette blouse qu'on se dit que peut-être elle était à sa mère ou qu'elle a dans ses affaires, qui a un côté un peu intemporel, ça rappelle un petit peu cette figure. Et effectivement, dans le cadre d'un film qui est aussi, qui va faire des incursions dans le film de genre, c'est toujours un ressort de se dire c'est la figure parfaitement rassurante qui peut devenir tout d'un coup terrifiante. C'est là que ça devient intéressant, en fait.
Mila ! Mila !
Ma petite
chérie. Tu t'éloignes plus jamais comme ça, c'est compris? Tu veux que quelqu'un te vole? Tu sais ce qu'un homme pourrait te faire? Eh bien, il t'emmènera. Il te gardera pour lui tout seul. Et tu auras beau crier et pleurer, personne ne viendra te chercher.
Et là, Louise, elle représente un certain nombre de gens qui sont dans une très grande précarité, en fait. Pour elle, cet emploi, ça représente vraiment presque une question de vie ou de mort, j'ai envie de dire, en plus du manque affectif.
Oui, de survie.
Ouais, de survie. Et elle se sent complètement laissée au bord de la route, quoi.
Je m'inquiète pour Mila. Elle passe plus de temps avec elle qu'avec moi. Je pense qu'il est temps qu'on s'en sépare.
Donc, effectivement, je trouve que j'ai évidemment regardé de quoi il s'agissait, mais j'ai préféré l'oublier parce qu'en plus, je pense que c'est d'une telle violence et c'est tellement insondable, comme l'est après la fiction du reste, parce qu'on n'explique vraiment rien, que pour moi, ça, voilà, c'est quelque chose qui est ailleurs. Je trouvais que la force du livre de Leïla Slimani, c'était aussi d'avoir tellement fait quelque chose qui est dans l'époque. C'est incroyablement précis sur le microcosme que ça décrit. Et c'est parce que c'est très précis que ça devient universel. Et c'est aussi parce qu'il y avait une dimension de conte un peu maléfique, je trouve, dans le livre, que le film peut tout d'un coup quitter un film qui pourrait être le récit de faits réels de manière très comme ça, naturaliste, pour aller quasiment dans le fantastique. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait. Ouais. Voilà.
Puis j'ai plus envie de m'occuper de quelqu'un d'autre, à part les enfants. Hein.
Et tu vas faire comment quand ils seront plus là?
Ils seront toujours là. Ils ont confiance. Ils savent.
Chanson douce, film de Lucie Borletot, en sortie nationale et actuellement au cinéma Les 400 coups à Villefranche. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.